Vous avez un message important.
On est vendredi.
Il est 11h.
Et c'est l'heure de...
Message important.
Des sujets qui nous semblent importants, qui nous ressemblent,
qui méritent d'être plus en fait.
Des débats.
Des explications.
C'est ce que nous avons à offrir.
Et ça se passe maintenant
sur Studio Z.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission axée sur les traditions de cette saison. Et oui, en ce mois de février, vous avez sûrement dû manger des crêpes. Je vous avoue que oui, moi j'en ai mangé. D'ailleurs, avec de la bonne petite confiture de Mirabelle de ma grand-mère et c'était vraiment délicieux.
Ah bah, faut que tu nous fasses goûter ça. Mais tu sais ce que c'est la chandeleur ?
Pas vraiment. Hormis le fait qu'on mange des crêpes ce jour-là, c'est tout ce que je sais.
En fait, c'est une fête judéo-chrétienne qui, comme quasiment toutes les fêtes de la Bible, retrace l'histoire de la vie de Jésus. Là, c'est 40 jours après Noël et c'est le moment où Jésus est présenté à la population. Dans la tradition juive, c'est le moment où la femme présente son enfant, ce qui est signe qu'elle retourne dans la société après s'être occupée de son enfant. Quant au mot chandeleur, il vient de la fiesta Candelarum, qui correspondait à l'allumage des chandelles en l'honneur de Jésus, car il est considéré comme un homme lumière. C'est le pape Gélas Ier qui a inventé cette cérémonie en s'inspirant des rites païens.
Ok, maintenant on sait un peu l'origine de cette fête, mais ça explique pas pourquoi on mange des crêpes.
Mais justement, après cette cérémonie d'allumage des chandelles, les familles rentraient chez elles pour faire des crêpes. On faisait des crêpes avec l'excédent de farine de la récolte de l'année précédente, ce qui était censé protéger la récolte de la moisissure et le foyer du malheur. La forme ronde de la crêpe n'est pas une forme aléatoire. C'est une forme qui renvoie au disque solaire qui rend hommage à Jésus, homme de lumière. Mais attention, il y a quelques règles à respecter pour la cuisson des crêpes. On doit faire sauter la première crêpe avec la poêle dans la main droite et dans l'autre main avoir une pièce pour espérer la fortune toute l'année. Et attention, la crêpe doit retomber à plat, sinon pas de fortune.
Ah oui, donc il faut vraiment vraiment faire attention. Mais est-ce que tu sais si on fête dans d'autres pays ?
Oui, bien sûr. Par exemple, au Mexique, c'est un jour férié. On l'appelle le dia de la Candelaria. Ce jour-là, les Mexicains mangent des tamales, qui sont des petits pains de maïs avec des garnitures sucrées ou salées. La tradition veut que le roi des galettes s'occupe de la préparation de ces petits tamales. Outre le repas, les Mexicains ont aussi l'habitude d'habiller des petites poupées de Jésus et d'aller les bénir lors de la messe. Au Luxembourg, c'est le Lichtmeister. C'est une fête qui, je trouve, ressemble un peu à Halloween, car les enfants vont allumer des lampions, puis vont sonner chez les voisins pour avoir des bonbons ou des pièces. Et aux États-Unis et au Canada, c'est le Groundhog Day. C'est le jour de la marmotte. Ce jour-là, on observe les marmottes pour fixer la fin de l'hiver. S'il fait froid et qu'il y a du brouillard, la marmotte ne voit pas son ombre, ce qui annonce que le printemps est proche. Mais s'il fait beau, la marmotte voit son ombre, donc ça l'effraie, et elle retourne hiberner. Ce qui veut dire qu'on en a encore pour 6 semaines d'hiver.
Eh bien dis donc, on apprend vraiment tous les jours ici. Hein. Ce qui est bien, c'est que ce soir, on s'endormira tous moins bêtes. Mais au mois de février, on fait pas que manger des crêpes. Certains d'entre nous vont au sport d'hiver. Tu savais qu'au départ, les sports d'hiver, ils sont fait connaître grâce à certains hôteliers comme Joanne Bradout. Car pendant la saison hivernale, ils voulaient faire revenir ses clients. Et donc, il proposa des activités telles que la luge, du patin à glace, mais aussi du ski. Est-ce que tu savais que la luge, avant d'être un sport de compétition, c'était un moyen de se déplacer, notamment dans les pays du Nord ? D'ailleurs, les Vikings de la région de Slagen l'utilisaient. La luge s'est répandue en raison de son utilité et de sa facilité à être maniée. C'est seulement à partir du 19e siècle qu'elle va être considérée comme un sport de compétition. D'ailleurs, les premières compétitions internationales, elles ont lieu en Suisse en 1883 à Davos. La luge, c'est un des sports les plus anciens. Malgré ça, elle attire chaque année des milliers de touristes.
Après, je pense que ce qui est aussi le plus connu à la montagne, c'est le ski. Après, le ski, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Il y a le ski de fond et le ski alpin. C'est pas la même chose.
Mais d'ailleurs, c'est quoi la différence ?
Déjà, il faut savoir que le ski est très ancien, qui était déjà utilisé il y a plus de 5000 ans pour la chasse et utilisé pour la guerre au Moyen-Âge. Bien évidemment, les skis ne ressemblaient pas aux skis qu'on a aujourd'hui. Hein. Ils étaient en bois, mais ils avaient à peu près la même forme. C'est les Norvégiens qui sont considérés comme les spécialistes dans ce milieu, car dès 1886, ils ont révolutionné les méthodes de création du ski en faisant des brevets et ont participé à leur exportation dans le monde. Alors, comment, sachant cela, on fait la différence entre ski de fond et ski alpin ? Déjà, visuellement, les skis de fond sont plus fins et le talon du skieur reste libre, alors qu'avec les skis alpins, les pieds sont fermement attachés au ski. Ensuite, le ski de fond possède des origines paysannes, rurales et populaires, alors que le ski alpin était plutôt réservé à la bourgeoisie. Mais surtout, et ça c'est un élément très important si vous devez choisir entre ski de fond et ski alpin, le ski de fond ne nécessite pas de pente et donc pas de remontée, ce qui vous permet d'aller le pratiquer en pleine nature. Olympiquement, on connaît le ski de fond grâce au biathlon, qui comprend du ski de fond et du tir à la carabine, alors que le ski alpin est utilisé dans les disciplines comme le slalom, le combiné qui réunit une épreuve de descente et une épreuve de slalom, le slalom géant et le freestyle, également appelé ski acrobatique.
Mais plus récemment, il y a le snowboard qui est apparu. Le snowboard est appelé aussi surf des neiges. Le snowboard est né de la rencontre de deux pratiques ancestrales, à savoir le ski d'origine scandinave et le surf d'origine hawaïenne. C'est un sport de glisse riche en sensations fortes, qui est apparu dans les années 1960 aux États-Unis. Mais il a fallu attendre les années 1980 pour que ce sport soit pratiqué dans tous les pays. Le snowboard a mis du temps à être connu, et encore aujourd'hui, la question du snowboard reste conflictuelle. Par exemple, Alta est une station qui refuse le snowboard depuis les années 1980. Pour justifier ce refus, la station prétexte que les snowboardeurs sont des dangers pour les skieurs, car ils raillent de profil et donc n'ont pas une bonne visibilité. Et à savoir, le snowboard a fait ses débuts aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998.
Alors moi, le snowboard, j'ai jamais essayé, mais ça m'a l'air bien compliqué. Par contre, il y a un truc que je sais faire, c'est le patinage. Je me débrouille, on va dire. Tu sais qu'à l'origine, les patins servaient aux hommes pour se déplacer plus facilement pendant l'hiver, comme les skis en fait. C'est seulement au 19e siècle que les patins à glace sont perçus autrement, notamment avec l'invention par Edouard Bunschnell du patin avec une lame en acier. À partir de cette période, le patinage est vu comme un sport. Et rappelons que c'est toujours un sport très complet qui permet de travailler souplesse, coordination, équilibre et force. Dans les années 1860, un autre Américain révolutionne le patinage. Il s'agit de Jackson Haines, un maître de ballet qui mélange la danse classique et le patinage. Et c'est ainsi qu'est né le patinage artistique. Les premiers championnats sont organisés en 1879 en Grande-Bretagne. Désormais, il y a 4 épreuves olympiques. Je suis sûre que vous en avez déjà tous vu quelques extraits. Il y a une épreuve individuelle pour les hommes et pour les femmes, une épreuve en couple et une épreuve de danse sur glace. Les compétiteurs doivent réaliser un programme court durant lequel les patineurs ont 2 minutes 50 pour réaliser des éléments techniques imposés par le jury. Mais ils ont aussi un programme long, aussi appelé programme libre. Dans cette épreuve, les femmes ont 4 minutes et les hommes et couples 4 minutes 30 pour présenter une chorégraphie avec des éléments techniques de leur choix. En ce qui concerne la danse sur glace, il y a 3 prestations. La danse imposée, la danse originale et la danse libre. La notation des performances a longtemps été signe de conflit et pour beaucoup un moyen d'arrangement. Mais en 2002, suite aux Jeux de Salt Lake, la notation a été réformée, ce qui a apaisé les tensions, même si les notes artistiques restent encore très contestées. Ce qui est, à mon sens, assez normal, vu qu'on parle de l'art et l'art n'a rien d'objectif. Par contre, je suis quasiment sûre que le patinage artistique vous disait quelque chose avant que je vous en parle, mais je suis pas sûre que vous connaissiez le patinage de vitesse. En fait, c'est un sport olympique lui aussi. Les patineurs font le tour de ce qu'on appelle la grande piste, un anneau de glace de 400 mètres. Le but est d'avoir le meilleur temps et non pas la meilleure place. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir une âme d'artiste pour patiner ?
Eh bien dis donc, le patinage ça n'a pas l'air très facile. Pour les personnes qui n'ont pas trop d'équilibre et de coordination, je vous propose plutôt la raquette. Cela ressemble fortement à la marche et c'est plutôt facile. À savoir, l'origine de la raquette remonte à la préhistoire. Alors certes, les raquettes de la préhistoire ne ressemblent pas à celles que nous avons aujourd'hui, cependant, elles ont quand même quelques similitudes. Les chasseurs-cueilleurs utilisaient des planches plates qu'ils fixaient sous leurs chaussures pour se déplacer et transporter le gibier dans la neige. les Indiens d'Amérique du Nord ont perfectionné ces planches de bois et en ont fait des vrais souliers de neige. Le nom « raquette » est donné par les colons français en 1604 et ils décident de ramener ce savoir-faire en France afin de pouvoir l'utiliser dans les territoires alpins. Au départ, les raquettes étaient lourdes et étaient difficiles de marcher avec. Afin de remédier à cela, on a fait des innovations, notamment sur les matériaux qu'on employait. Maintenant, on utilise plutôt de l'aluminium et du plastique.
C'est vrai que ça a l'air plus simple que le patin quand même. Mais au moins, ce qui est cool aussi avec les raquettes, c'est qu'on peut en faire pendant une pandémie mondiale. Donc bon, c'est pratique.
Oui, c'est vrai, totalement raison.
En tout cas, que ce soit le ski de fond, le ski alpin, la luge, le patin ou même les raquettes, ce sont des éléments phares du sport d'hiver et donc de ce mois-ci. Malgré cette situation instable qui ne nous permet pas de pratiquer toutes ces disciplines, nous espérons qu'au moins vous vous êtes imaginé avec des skis au pied et à la montagne, mais surtout que vous en avez appris un peu plus sur le sport d'hiver et sur la chandeleur. En tout cas, nous, on va devoir vous laisser car on a une folle envie de manger des crêpes et de s'organiser un petit week-end à la montagne.
Allons-y. Ouh.
T'as pris la farine ou pas ?
Oui, t'inquiète, j'ai pris, ça
marche. Dans mon sac.
Par Clara et Julien. On se retrouve le mois prochain à la même heure. Et si vous avez des initiatives à mettre en valeur, n'hésitez pas à nous contacter sur studiozef.fr et nous ferons un plaisir de vous accueillir.